L'avenir n'est pas écrit et le cours des événements dépendra de l'action ou de l'inaction de celles et ceux qu'ils convoquent. C'est pourquoi ce livre est une alarme face à la fuite en avant irresponsable d'un pouvoir affolé qui, pour se légitimer de nouveau, a choisi de jeter les gilets jaunes dans les bras des forces de l'ombre. Edwy Plenuel est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « La victoire des vaincus à propos des gilets jaunes » et il sera rejoint tout à l'heure par Grégoire Bouillet qui sort un texte intitulé « Charlot déprime » suivi de « Un rêve de Charlot » à propos aussi des gilets jaunes. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et pour bien commencer la semaine, ça sera Jacques Brel, Jaurès.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes? Ils étaient vieux avant que d'être 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux. Quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Pourquoi ont-ils tué Jaurès, Edwy Plenuel?
Oui, j'ai voulu qu'on commence par cette chanson qui m'émeut beaucoup parce que c'était une façon de rappeler que la haine, la morgue, le mépris social qui s'est exprimé face aux gilets jaunes ne voyait pas que les gilets jaunes, ils sont de cette longue histoire. Le moment où des vaincus que l'on a décrétés vaincus, opprimés, exploités, essaye d'inventer l'espérance. Et toute l'histoire de nos libertés, de nos droits démocratiques, de nos libertés sociales, elles sont nées comme ça, elles sont nées de ces combats. Et la figure de Jaurès, cette chanson est très spéciale dans l'œuvre de Jacques Brel, c'est tout à la fin de sa vie, et tout d'un coup, lui qui faisait pas des chansons explicitement politiques, fait ce solennel « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?» qui rappelle la figure de cet homme qui était au service de ceux qu'on appellerait aujourd'hui les gens d'en bas, les gens de peu, ce peuple des Gilets jaunes, dans sa diversité, dans sa confusion. Et si j'ai fait cette victoire des vaincus, d'ailleurs vous l'avez entendu, le mot est dans la chanson de Jaurès, les vaincus, c'est pour les défendre comme un avocat commis d'office face à, sincèrement, ce discours de guerre sociale qui peut aller jusqu'à justement tuer ce Jaurès hein, qui dérangeait les puissants, les possédants. Ce discours de guerre sociale qui s'est déversé, je trouve, d'en haut depuis plus de 4 mois, bientôt 5 mois, qu'il y a cet événement inattendu d'un peuple qui essaye de mettre à l'agenda du débat public les questions d'égalité, d'égalité concrète face à l'injustice et la question démocratique de l'égalité des droits.
Alors nous parlerons de ces gilets jaunes et notamment de cette pluie de livres qui nous tombe dessus sur les gilets jaunes. Nous avons à l'heure bleue délibérément choisi votre livre et celui d'un écrivain, Grégoire Bouillet, qui nous rejoindra tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on parle de ce sentiment de révolte qui vous habite depuis longtemps, et ce depuis l'aube de l'adolescence, Edoui Plenel. Vous avez écrit il y a quelques années un livre intitulé « Secrets au pluriel de jeunesse ». Et dans ce livre, vous parlez de l'Algérie et des années où vous êtes éveillé à la conscience politique dans ce lycée où vous étiez avant de retrouver la France. Mais avant l'Algérie, il y a eu la Martinique. Et en Martinique, votre père était vice-recteur. Et cette Martinique, vous l'avez quittée en 1965, donc en pleine adolescence, et pour des raisons qui ont dû vous contraindre à intérioriser ce sentiment de révolte. Comment s'est passé ce moment-là pour vous, Edoui ?
La Martinique, l'Algérie, vous savez, c'est un chemin à l'époque qui avait une figure tutélaire, car il l'a fait en ayant été d'abord soldat de la France libre, c'est Frantz Fanon. C'est l'homme des damnés de la terre qui s'est retrouvé ensuite, après avoir quitté la Martinique, qui s'est retrouvé épousant la cause algérienne et à l'hôpital psychiatrique de Blida, dans la Mitidja. Donc je suis, par mes parents, quelqu'un qui a été porté par ces aspirations des peuples que nous avons opprimés, que nous avons conquis, sur lesquels nous nous sommes projetés. Il faut le rappeler aujourd'hui que d'autres frappent à notre porte et que on ne voudrait pas les accueillir, mais ils viennent de pays où nous nous sommes invités, pour le moins. Et donc, ce chemin, c'est celui de l'émancipation, de l'égalité des droits, qui valent pour tous. Et je suis heureux que vous commenciez par ça, parce que l'Algérie est là, l'Algérie, elle bouge. C'est formidable ce qui se passe en Algérie. Et c'est d'une très grande beauté, ce peuple qui a été tant martyr avec la décennie noire. Il y a une grande inventivité, un grand humour. Aucune violence, parce qu'il faut rappeler, la violence, vous savez, c'est une interaction. Les premières manifestations contre les cinquièmes mandats de Monsieur Bouteflika étaient interdites. Ils ont bravé l'interdiction et la crise interne du pouvoir fait qu'il n'y a pas eu de répression. Et donc, du coup, les gens ont pris courage et sont devenus très massifs. C'est pas du tout ce qui s'est passé chez nous. Hélas, il y a eu une répression totalement inédite, d'une violence totalement inédite de ce mouvement au départ pacifique des Gilets jaunes. Mais j'en reviens à cela. Qu'est-ce qui m'a marqué? Pas l'injustice. Au fond.
Pourquoi votre père a-t-il été destitué?
Parce que mon père, et c'est là, c'est un message pour beaucoup de gens aujourd'hui, qu'ils soient préfets, qu'ils soient administrateurs, qu'ils soient policiers, qu'ils soient gendarmes, de gens qui sont au cœur de l'État. Mon père était ce qu'on appelle un haut fonctionnaire, promis à une très très belle carrière, excellemment noté. Il y a un acte raciste, il y a une émeute face à cet acte raciste, et il y a une répression violente, et il y a des collégiens qui sont tués à balles réelles, et ils sont tués. Mon père est le patron de l'éducation. Il pense en son fort intérieur que c'est terrible d'avoir fait ça. Ces jeunes ne manifestaient pas, ils sortaient du collège. En clair, c'est une violence illégitime qui s'est abattue sur ces jeunes et qui les a fauchés au plus bel âge de la vie. Et donc, au lieu de garder, comme le seraient tentés beaucoup de gens qui ont le sens de l'État, ils en pensent pas moins, mais ils ne disent rien. Mon père commet, non pas l'erreur, mais la grandeur, pour moi, dans ce discours où il inaugurait un établissement. Cette histoire, c'est une empreinte. Il inaugurait un établissement au nom d'un de ces jeunes. Et au fond, il a dit « Je ne suis pas la France qui a tué. Je suis une autre France. Celle de Victor Hugo, de Schellcher, celle de nos idéaux dont nous parlons là. » Alors, quelle est l'empreinte ? L'empreinte, c'est qu'il faut savoir dire non. L'empreinte, c'est qu'il faut, y compris au cœur de l'État, qu'il y ait des gens qui nous protègent. Il faut des gardiens de la République. Vous avez vu ce qui s'est passé là. Le préfet de police, M. Michel Delpuech, je le connais, n'est pas un révolutionnaire ni un gauchiste. Mais il ne voulait pas des LBD, qui sont des armes de guerre. On l'a débarqué. Il a résisté et on l'a débarqué. Je lance cet appel. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a le nombre de choses qui se passent sur les jeunes, qui soient les jeunes qui décrochent des portraits de potaches pour le climat de Monsieur Macron, des jeunes gilets jaunes qui n'ont jamais manifesté de leur vie. Il y a aujourd'hui, et je le crains, des consignes qui sont données au cœur de l'appareil d'État, à des magistrats, à des policiers, à des gendarmes, qui minent la confiance dans la République et qui privatisent l'usage de la République au service de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, pour vous répondre et excuser l'émotion, en effet, c'est une empreinte vive. C'est que, et j'essaye, à la place qui est la mienne, d'être simplement journaliste, de dire non là où je suis. Dire non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de ne pas être compromis, de ne pas se vendre, d'être indépendant, d'être au service du droit de savoir des citoyens. Vous savez, je dis souvent, bien sûr, que par exemple, ce que sort Mediapart, ou ce que j'ai sorti moi-même, et vous le savez, sous d'autres présidences, a dérangé des gens, a rendu triste des gens. Mais je dis souvent la phrase d'Orwell, qui disait « La liberté n'a de sens que si c'est celle de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre ».
Ce qu'il faut ajouter, Edoui Plenel, c'est que votre père, en 1982, a été réhabilité. Et ça, je pense que c'est très important, car la lutte pour l'intégrité d'un homme, évidemment quand c'est son père, mais même quand ce n'est pas son père et qu'il a été un serviteur de la République, c'est une chose extrêmement importante. Je vous propose d'écouter la voix de quelqu'un qui a beaucoup compté pour votre père, mais aussi pour vous, je pense. C'est la voix d'Aimé Césaire à propos de la dépendance envers les colons, la révolte qu'il a ressentie et exprimée pour ne pas se sentir étouffé. C'est une archive INA de juin 1973. J'ajoute que Aimé Césaire, c'est l'auteur de Cahier d'un retour au pays natal, Discours sur le colonialisme, etc., etc., et que c'était aussi un immense poète.
Je me rendais bien compte de la terreur dans laquelle les villageois vivaient, de l'importance que ça avait d'être bien ou d'être mal et avec le colon, parce que c'est de lui que dépendait la vie. Si on vous refusait du travail à ce qu'on appelait l'usine, qui était la distillerie ou la fabrique de sucre, eh bien, il est clair que c'était vraiment la ruine et la catastrophe. Le patron de l'usine, le grand Becquet, c'était un être presque mythique. Et c'était vraiment le seigneur. Je me suis toujours connu aspirant à autre chose. Mais je crois que la révolte a joué un très grand rôle. Vraiment, le ressort poétique a été d'abord la révolte contre cette médiocrité, contre cette oppression dont je discernais mal les causes, contre cette religion, et tout cela, vraiment, j'avais vraiment besoin de faire sauter un petit peu toute cette carapace, enfin, tout cela, j'avais un peu l'impression que j'étais étouffé.
Alors, au-delà de la construction de votre personnage, Edoui Plenel, il y a un amour de la littérature, et ce, dans tous vos livres, et vous en avez publié beaucoup. Et celui-ci, qui sort ces jours-ci, eh bien, il a comme exergue une phrase de Victor Hugo, que je vais citer. « Le plus excellent symbole du peuple, c'est le pavé. On marche dessus jusqu'à ce qu'il vous tombe sur la tête. » Et partout, dans tous vos livres, que ça soit Charles Péguy, que ça soit Aimé Césaire, que ça soit la poésie surtout, sans parler évidemment de Frantz Fanon qu'on a évoqué tout à l'heure, d'Édouard Glissant qui a été très important à l'intérieur de votre parcours. On a l'impression que la littérature vous habite et vous donne une manière de construire votre récit par rapport à votre perception de la politique ou du politique.
C'est extraordinaire, j'écoutais la voix d'Aimé, comme on dit à Martinique, d'Aimé Césaire. Et c'est extraordinaire parce que vous savez ce que la Martinique m'a appris, et d'une certaine manière je l'ai croisé aussi en Algérie. Et ce que théorisait très bien Édouard Glissant, c'est que la politique entendue vraiment comme un bien commun, pas des carrières, des sièges, des mandats accumulés. La politique comme bien commun, ça doit être une poétique, un horizon qui vous élève. Il a dit sortir de cette médiocrité, comme on sort du marécage, comme on monte sur une ligne de crête, comme on prend évidemment la trace hein, pour échapper au système de la plantation, la révolte. Un horizon, un imaginaire. Et rien de mieux que la poésie pour cela. Vous savez, je l'ai mis dans un autre livre, dire non, je ne sais plus c'est dans lequel, je citais un des derniers poèmes publiés d'Aimé Césaire dans son recueil « Moi, laminaire ». C'est un poème dédié à Wilfredo Lam, le peintre. Ça s'appelle « Nouvelle bonté ». Nouvelle bonté, c'est important ce mot de bonté. Et il dit « Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube ». Et je me suis amusé à une résonance, une fois, une autre personne qui a joué un rôle dans toute cette histoire aussi poétique, c'était un fou de poésie, vous le savez, Stéphane Hessel, dans trois langues, en plus, un homme du monde, de tout monde, comme disait Édouard, il parlait donc aussi bien en français, en anglais qu'en allemand, et Hessel aimait un peu Cabotin, hein, réciter des poèmes, il aimait tout, il attendait qu'on se lève, et puis qu'on lui demande de se lever, puis finalement il le faisait de lui-même, puis parfois il n'avait pas le temps, et son poème préféré était La Jolie Rousse de Guillaume Apollinaire, qui est un poème assez long. Et c'est le Guillaume Apollinaire trépané qui est revenu du front et qui va mourir. Il revient du fracas, des haines, des peurs, du nationalisme, de la destruction des peuples les uns par les autres. Et il dit, bon, ce poème est un peu long, j'ai pas le temps de vous le réciter. D'accord, mais il y a un vers dont vous devez vous souvenir, notamment les jeunes. Nous voulons trouver la bonté, contrée énorme où tout se tait. Et c'est ça, cet imaginaire qui réenchante la politique. On la sort de la médiocrité et... Pour rester sur notre actualité, allez sur les réseaux sociaux et là où il y a les petites vidéos sur les gilets jaunes. Et c'est pour ça que je voulais aussi qu'on écoute Jacques Brel. Les gilets jaunes, non seulement ils entendent des musiques, ils en inventent. Ah, il y a une inventivité artistique, des carmagnoles de gilets jaunes formidables.
Ah ben alors attendez, grâce à vous, enfin pas seulement grâce à vous Edoui, parce qu'on est aussi au courant de ce qui se passe pour les gilets jaunes, mais on va entendre un petit extrait d'un homme qui, au départ, s'est fait immobiliser sur un rond-point à cause d'une manif des gilets jaunes. Il était au volant de son camion. Finalement, il a réussi à trouver l'inspiration et voilà ce que ça donne.
Macron, démission ! Macron, démission ! J'ai dit Macron, démission ! Macron, démission ! Macron, démission ! Gilets jaunes ! Moi, gilets jaunes ! J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. J'ai voulu mettre l'essence, c'est trop cher. J'ai payé les taxes, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là, c'est trop cher. Faut cotiser par-ci, c'est trop cher. Faut cotiser par-là. Y'en a marre, je vais manifester. Donc je mets mon gilet jaune. Pas gilet jaune, c'est mal les gilets jaunes.
Alors il faut savoir qu'il y a eu 21 millions de vues sur YouTube, que ce jeune homme qui ne se dit absolument pas politisé et qui je crois n'est pas spécialement gilet jaune, même s'il est gilet jauné, eh bien il est en train de commencer une carrière et tous les week-ends il est dans un studio de musique parce qu'il a été choisi par un label pour continuer à chanter tout en faisant... le camionneur le long de la semaine. Donc c'est une très belle histoire.
Et qui dément la caricature Hein, les gilets jaunes, ils sont forcément racistes, ils sont forcément xénophobes, ils sont forcément antisémites. Nous qui avons été sur le terrain, et ici aussi à France Inter, vous le savez bien, c'est pas ça la réalité. Là, on loue les gilets jaunes dans une musique qui pourrait être à Kinshasa, à Ouagadougou, à Bamako.
Ça donne envie de voilà, danser, en
voilà,
tout cas.
Et on y est. Et vous savez, j'étais à Orléans. Bon, j'étais avec Jeanne d'Arc.
Attention,
ce
oui, il y avait Jeanne.
J'étais, ben Jeanne est une révoltée des temps de transition pour moi. Elle aurait été gilet jaune. Mais j'avais dans le débat... Mais oui, bien sûr, parce qu'elle transgresse, Jeanne. Elle transgresse. Et elle attend pas qu'on lui donne l'autorisation. Et elle y va. Et elle invente un futur.
Ça se termine mal, hein.
Mais oui, mais peut-être que ça se terminera mal. Mais la victoire des vaincus, c'est que la victoire, c'est d'ouvrir l'espérance. Et même si soi-même on a perdu, on ouvre l'espérance. J'aurais ça perdu, mais c'est lui qui a gagné. C'est pas son assassin, ni ceux qui ont laissé faire. Rosa Luxembourg, c'est elle qui a gagné. C'est pas ses assassins. On pourrait multiplier les exemples. Et je dis ça parce que hier, par exemple, ce week-end à Orléans, il y avait dans le débat où il y avait d'ailleurs le sénateur Jean-Pierre Sueur, la commission d'enquête de l'affaire Benalla. J'ai défendu le fait que le Sénat, là, en l'occurrence, Alliance Socialiste et Républicain, a fait son travail de contrôle du pouvoir exécutif. Il n'a pas fait un coup d'État. Il a fait son boulot, le Sénat. Et c'est très bien, l'indépendance. Et en même temps, il y avait des gilets jaunes et l'un de leurs représentants était là avec son gilet jaune, un jeune, Jonathan. Ben, il avait un badge, vous savez quoi, de l'UFJP, l'Union Française des Juifs pour la Paix. Ça fait pas gilet jaune antisémite, ça. Vous voyez, ça fait gilet jaune engagé.
Non, mais il y a eu aussi des manifestations d'antisémitisme à l'intérieur des gilets jaunes.
Il y a eu l'extrême droite qui a essayé. Elle est partie. Regardez le week-end, ce week-end à Saint-Nazaire. Regardez les déclarations, les textes des gilets jaunes. Les gilets jaunes, leur dynamique est sociale et démocratique. Ils revendiquent des choses très claires en termes sociaux, en termes démocratiques. Très clair en refus du racisme. Je donne la première assemblée des assemblées. Là, c'est la deuxième, était à Commercy. Dans leur texte, ils demandent des droits sociaux et ils précisent dans ce texte que ces droits sociaux doivent valoir pour toute personne vivant en France, quelle que soit sa nationalité. Ils vont plus loin que n'importe quelle force politique française. Ils disent les droits sociaux qu'on a, même n'importe quel migrant qui arrive doit les avoir. C'est ce qu'ils disent. Et c'est ça l'élaboration collective des gilets jaunes. Voir les gilets jaunes à partir de tel ou tel Olibrius, de tel ou tel incident, de tel porte-parole autoproclamé, alors qu'ils le refusent, alors qu'ils sont dans l'auto-organisation, c'est ne pas voir cette inventivité du peuple et qui a, évidemment, ses laideurs à côté, mais qui a sa dynamique de politisation.
N'êtes-vous pas un peu trop un sentimental de la révolution à tout prix ?
Non, je suis
pessimiste. Edoui Plenel.
Je suis pessimiste de l'intelligence et optimiste de la volonté. L'intelligence, c'est voir les contradictions, etc. Mais il faut prendre au sérieux ce qu'on raconte, Laura Adler. Si on raconte
professeur.
Non, mais non, dis Laura Adler, parce que vous allez le prendre au sérieux, vous aussi. C'est quand on dit que la montre tourne sur le climat, qu'il reste 11 ans, disent les experts du GIEC, avant de ne plus pouvoir inverser la tendance sur le réchauffement climatique. Quand on dit qu'un tel niveau d'inégalité que celui qu'on a atteint, où les richesses, la moitié des richesses mondiales sont captées par 26 familles et à l'échelle nationale, c'est pareil, l'enrichissement d'une ultra-minorité. Quand on voit les cours autoritaires de régimes issus des élections, et y compris chez nous aujourd'hui, sur les libertés fondamentales. Eh bien, si on pense sérieux ça, on se dit que il faut arrêter. Je dis dans le livre, contrairement à ce que disait Marx en reprenant Walter Benjamin, les révolutions, c'est pas la locomotive de l'histoire. Benjamin disait, en fait, c'est le moment où les passagers du train, l'expression est importante, les passagers du train, ils sont aussi divers que les gilets jaunes. Ils n'ont pas choisi de venir à un même meeting, ils ont des origines sociales différentes, des sensibilités différentes. Mais tout d'un coup, ils prennent ensemble conscience que le train va dans le mur. Et alors, ils déclenchent le signal d'alarme pour que les freins d'urgence bloquent le train. Et il dit, c'est ça les révolutions. Les révolutions, c'est le moment où, au fond, d'en bas, on prend conscience de l'irresponsabilité d'en haut et où on tire ce signal d'alarme. Et vous l'avez sous nos yeux aujourd'hui, avec les convergences. Parce qu'il y a une convergence des gilets jaunes avec quoi ? Avec les jeunes sur le climat. Fin du mois, fin du monde, c'est pour nous le même combat. Jeunes sur le climat qui sont autant réprimés. Je rappelle, action non violente, ils sont en garde à vue uniquement pour le décrochage des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies. Action potache pour contester l'immobilisme du pouvoir. Deuxième deuxième convergence, il y a le climat. Et ils se retrouvent, gilets jaunes et gilets verts, j'allais dire, mais les quartiers populaires. Parce que sur la répression, tout d'un coup, on prend conscience de quoi ? Ben, on prend conscience qu'en fait, c'est ce qui s'expérimentait avec les bacs sur les jeunes des banlieues, hein, le LBD. Et tout d'un coup, tiens, ça vaut pour nous. À ce qui leur arrive, eh bien, c'est ce qui nous arrivait, et ainsi de suite. Et ben, du coup, on voit des convergences, on voit le comité Adama
qui manifeste. Vous aimez bien parler, Edoui Plenel. Hein, vous adorez parler, hein, vous êtes un très bon rhéteur.
Trop ?
Non, pas trop, vous auriez dû faire de la politique.
Mais non, on parle, je pense que parler, c'est ce qu'on doit...
Vous inventez vous-même vos adversaires imaginaires au moment même où vous parlez en direct dans le studio.
Dites-moi, quels adversaires parlez. Imaginaires j'ai inventés
ben, Non, mais vous faites le plaidoyer.
Oui, puis... mais je pense qu'il faut écouter quand même... Je ne sais pas, mais dans quel monde sommes-nous si on a un pouvoir qui ne fait aucune respiration démocratique
alors,
par rapport à un mouvement populaire comme celui-là, qui fait un grand débat qu'il contrôle, où il fait... D'ailleurs, les réponses sont tombées, et évidemment, il a fait les questions et il a choisi les réponses.
Oui, alors, depuis le temps que vous avez construit un journalisme d'investigation, depuis le temps que vous avez construit un rapport à la réalité, que vous avez dévoilé... au bon moment pour le bien-être de nous, citoyens, et de la continuité de la démocratie, vous avez, en quelque sorte, élaboré une théorie de la philosophie politique de ce que ça veut dire la vérité. Mais la vérité, il est de plus en plus difficile d'essayer de l'attraper, cette vérité. Moi, je vous propose d'écouter un homme très important pour essayer de comprendre ce que ça veut dire la vérité. Un homme, d'ailleurs, que vous citez à l'intérieur de votre nouveau livre, c'est Michel Foucault, qui avait écrit un livre très important qui s'intitulait « La volonté de savoir ». Et bien, justement, il va parler du savoir et de la société et de l'exclusion du savoir. Écoutez-le, c'est une archive de 1994.
Le savoir est tout de même profondément lié au plaisir. Enfin, qu'il y a certainement une façon d'érotiser le savoir, de rendre le savoir hautement agréable. Et ça, que l'enseignement ne soit pas capable même de révéler cela, que l'enseignement ait presque pour fonction de montrer combien le savoir est déplaisant, triste, gris, peu érotique... Moi, je trouve que c'est un tour de force. Mais ce tour de force, il a certainement sa raison d'être. Il faudrait savoir pourquoi est-ce que notre société a tellement d'intérêt à montrer que le savoir est triste. Peut-être précisément à cause du nombre de gens qui sont exclus de ce savoir. Imaginez que les gens aient une frénésie de savoir comme ils ont une frénésie de faire l'amour. Eh bien, vous imaginez le nombre de gens qui se bousculeraient à la porte des écoles ? Mais ça serait le désastre social total. Total. Il faut bien... si l'on veut restreindre au maximum le nombre de gens qui ont accès au savoir, le présenter sous cette forme parfaitement rébarbative et ne contraindre les gens au savoir que par des gratifications annexes sociales qui sont précisément la concurrence ou les hauts salaires en fin de course, etc. Mais je crois qu'il y a un plaisir intrinsèque au savoir, une libido sien-dit, comme disent les gens savants.
Il dit, dans la volonté de savoir, Michel Foucault, il dit que la vraie question, il appelle ça la parésia, c'est d'être capable de vivre en vérité. Ce qui veut dire accepter les vérités qui nous dérangent. Accepter les vérités qui nous dérangent. Et j'ai cité souvent un autre texte d'une autre philosophe, Hannah Arendt, en 67, qui s'appelle « Vérité et politique », où elle explique, et on est au cœur du danger qui menace notre époque, avec justement l'illusion d'une libération de la parole sur les réseaux sociaux, c'est que c'est le règne de l'opinion. Et comme dit Hannah Arendt, les vérités d'opinion, il y en aura toujours. Des vérités raisonnables, des vérités détestables, des vérités émancipatrices, des vérités de haine. Chacun a ses préjugés, a ses opinions. Et elle dit, pour qu'il y ait un monde commun, il faut qu'au cœur du débat d'opinion, on réussisse à mettre ce qu'elle appelle les vérités de fait. Petit v, pluriel, c'est-à-dire le puzzle de la vérité sur le présent et sur le passé. Lesquelles vérités de fait, et c'est notre rôle à nous, je pense, comme journaliste, doit être aussi de faire surgir des vérités qui dérangent, hein, vivre en vérité, hein, accepter les vérités qui dérangent. Et mon inquiétude actuelle, vous disiez je m'invente des ennemis, je ne crois pas, ils sont là. Je regarde par exemple ce qui s'est passé dans la dernière séquence sur une présidence qui se prétendait libérale et progressiste, qui n'est ni l'un ni l'autre, ni progressiste socialement, ni libérale politiquement. On a vu un président de la République, dès qu'il a été cerné par l'affaire Benalla, c'était en juillet, dire... tire. Dans la même scène où il dit « le responsable, c'est moi » et qu'ils viennent le chercher, et les gilets jaunes sont venus le chercher, et il dit « nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité ». Et depuis, il a même dit qu'il faudrait une information neutre et qu'il faudrait que le pouvoir politique la finance presque pour la contrôler, pour contrôler sa neutralité. Non, l'information, elle ne doit pas être neutre, elle doit être loyale, honnête et pluraliste. Et par ailleurs, oui, sa phrase « nous avons au contraire une presse qui cherche les vérités qu'il cache ». Et nous l'avons montré dans l'affaire Benalla. J'ai été vraiment très choqué. Je faisais une allusion tout à l'heure sur le Sénat. Dieu sait si on peut critiquer les sénateurs, leurs privilèges, cette vieille assemblée, etc. Mais enfin, j'ai été très surpris pour cette histoire qui aurait dû rester au rang de fait divers, l'affaire Benalla, de voir le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le chef du parti majoritaire, quand le Sénat rend son rapport de contrôle du pouvoir exécutif, traiter le Sénat comme s'il avait fait un coup d'État. Et même pire, dire cette phrase où on se pince, le Sénat fait de la politique. Ah bon, c'est un gros mot de faire de la politique? Et la politique, c'est pas avoir un pouvoir parlementaire qui contrôle le pouvoir exécutif? Et qu'est-ce que c'est que l'affaire Benalla, sinon un dérèglement du pouvoir exécutif? Et donc, vous me moquiez et vous m'avez un peu séché en me disant « vous parlez beaucoup » et tout à l'heure, comme ça, mais j'essaye de faire partager. Vous savez, je vais...
Est-ce que c'est difficile c'est de savoir?
C'est un travail. C'est un travail. Il y a un film qui passe actuellement sur certains écrans depuis Mediapart, fait par une jeune réalisatrice, abonnée de Mediapart, une documentariste, Naruna Kaplan de Macedo. On y voit, comme je dis en rigolant, un Mediapart sans moustache. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une équipe, ce sont des paroles d'atelier. C'est un atelier, une rédaction, c'est un travail collectif. On se corrige, votre collègue, on vérifie, etc. C'est pas une aventure individuelle, le journalisme. Et si j'ai de la passion dans ce que je dis, c'est pour faire passer cette dimension sensible du travail collectif. Vous parliez de la poésie. Eh bien, je pense qu'il faut aussi rendre sensible ce que l'on fait. Et le journaliste, pour moi, nous sommes une époque où il retrouve sa jeunesse, être au service du public, être utile. Et le journalisme, j'ai comme vous des convictions, mais mon rôle, ce ne sont pas mes convictions. Mon rôle, c'est d'apporter des informations utiles. C'est pas le blabla des opinions, c'est les informations d'intérêt public, et c'est ce qu'on essaye de faire.
Alors justement, ce film qui est visible depuis le mois de février, qui s'intitule « Depuis Mediapart », qui est signé donc de Naruna Kaplan de Macedo, nous permet de comprendre quel est le fonctionnement de votre passion journalistique, Edoui Plenel. Et il nous fait rentrer aussi dans les coulisses de Mediapart, qui a eu quand même une certaine chance à un moment, puisque vous avez reçu dans vos bureaux Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle, après sa campagne présidentielle, et vous lui faites la proposition suivante à l'intérieur de ce documentaire. Vous lui demandez, et je trouve que c'est une très bonne idée et très clairement démocratique, s'il accepterait de venir une fois par an faire le point justement de son élaboration démocratique, du vivre ensemble, pour reprendre un terme à la Hannah Arendt. Vous pensez qu'il va revenir chez vous?
Alors, il est revenu la première fois, en refusant que ce soit chez nous. Ça s'est passé au Palais de Chaillot, là où a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour son 70 ans, et ils nous ont mariés, parce que c'est Mediapart qui a d'abord fait la demande, ils nous ont mariés avec RMC et BFM. C'est passé avec Jean-Jacques Bourdin, comme vous le savez. Ça a été un peu cash. Là, j'ai refait la demande, ce que j'appelle l'entretien d'évaluation. Je lui ai dit, dans une entreprise, il y a ça, on doit faire l'entretien d'évaluation. On doit faire l'entretien d'évaluation. Je lui ai dit, écoutez, après tout, vous allez être élu par défaut, par manque de choix face à l'extrême droite. Donc, c'est là où il a dit chiche et moi j'ai répondu banco. Donc, j'ai refait la demande. Il n'y a pas plus tard que 15 jours, j'ai refait la demande dans les locaux de Mediapart, face à la rédaction de Mediapart, sachant que nous avons pas mal de questions à lui poser sur les gilets jaunes, sur l'affaire Benalla. Et je suppose qu'il ne sera pas déçu du voyage avec les questions de Mediapart. Et plus les questions sont bonnes, meilleures sont les réponses, non?
Absolument. Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Grégoire Bouillet, qui, à mon avis, va aussi vous plaire, Edoui Plenel. C'est Quilapayún, El Pueblo Unido. Allez, vous connaissez la suite.
Oui, jamás vencido.
El Pueblo Unido jamás será vencido. El Pueblo Unido jamás será vencido. El
Merci pour cette magnifique chanson, Grégoire Bouillet. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous aviez publié un premier livre qui avait fait beaucoup parler de vous, qui s'intitulait « Rapport sur moi », puis ensuite il y a eu les deux magnifiques et très gros volumes qui s'intitulaient « Dossier M1 » et « Dossier M2 ». Vous étiez d'ailleurs venu dans cette émission pour parler de cette odyssée personnelle mais aussi politique. Et là, ces jours-ci, vous publiez un livre assez incroyable, sentimental, poétique, orageux, personnel, mélancolique, introspectif. Voilà comment ça commence. « Ne me laisse pas indifférent, point. Cela réveille ma petite conscience politique en déshérence depuis si longtemps comme partout, point. Quelque chose est en train de s'écrire là, en France, depuis des semaines, qui souffle sur certains feux qui ne s'éteindront jamais en moi. » Comment ça a commencé, les Gilets jaunes, pour vous ?
Oh ben, je pense que, comme tout le monde, enfin, pardon, en ayant vent de cette révolte, de ce mouvement, c'est compliqué de le qualifier. Après, mon premier mouvement, ça a été d'être un petit peu scié du peu de retentissement dans la classe artistique. Ça a vraiment été ça mon premier sentiment, parce que moi je me suis senti interpellé, enfin tout bêtement, en tant que, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tant qu'homme de gauche, on va dire, bêtement. J'ai pas fait un gros mot peut-être maintenant, mais en tous les cas foncièrement et depuis mes années adolescentes, enfin voilà, où je me sens profondément de gauche et j'ai vécu comme tout le monde la faillite de la gauche à partir de 83, j'ai envie de dire, et son long délabrement intellectuel et idéologique, enfin voilà. Et moi, ça m'a interpellé. Enfin voilà. On m'a parlé par exemple de Nuit debout. Où moi, je suis passé complètement à travers parce que dans ma vie privée, je faisais autre chose et j'étais accaparé par ma vie privée. Donc j'imagine que des gens qui sont aujourd'hui amoureux, par exemple, n'en ont rien à foutre des Gilets jaunes. Et ils ont raison, parce que la révolution, elle a lieu dans leur vie. Mais c'était pas mon cas. Enfin, je vis avec quelqu'un et ça se passe très bien. Donc ce mouvement arrive et...
Pourtant, vous y allez tout seul hein, dans les manifs des Gilets jaunes. Vous emmenez pas votre dulciné.
Non. Oui, c'est vrai. Non, non,
pourquoi?
Mais parce que c'est un peu. Enfin, en tous les cas, c'était le 8 décembre, je crois. C'était juste après, une semaine plus tôt, c'était là où il y avait tous les grands débordements sur les Champs-Élysées. Et je fais bien, enfin, je précise tout de suite, je fais bien le distinguo entre ce qui se passe sur les Champs-Élysées et ce qui se passe ailleurs en France, sur les ronds-points. Je pense que c'est pas du tout la même histoire qui s'écrit, c'est pas du tout les mêmes motivations, c'est pas du tout les mêmes tensions intérieures. Je pense que l'article de Florence Obnas a vraiment fait le boulot, d'une certaine façon, sur ce qui se passe sur les ronds-points. Même si, pour moi, ce serait mieux si elle écrivait de façon un peu plus gonzo, c'est-à-dire si elle s'impliquait plus. Mais en tous les cas, elle a bien raconté.
Ce qui est votre cas.
Oui, ce qui est mon cas, parce que Moi, intervenir en tant que citoyen n'avait pas de sens pour moi. Intervenir en tant qu'écrivain, oui. Et donc, qu'est-ce que je peux faire comme geste littéraire par rapport à cette histoire? C'est venu comme ça. Il fallait, d'abord, il y avait le premier sentiment que, pourquoi les écrivains? Pourquoi il n'y a pas de chansons? Ça m'amusait, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Le mec n'est même pas politisé.
Et il se politise, parce que c'est ça, un mouvement social. On se politise.
Et puis il y a une espèce d'ironie, enfin ça fait rire et tout ça, donc 15 millions de gens. Donc c'est un peu dans cette espèce d'air du temps où la chose est découplée de son intention. Et moi j'ai des problèmes avec ça. J'avais une intention qui était il se passe quelque chose. J'ai un sentiment que, en tant qu'écrivain,
de solidarité et de communauté.
Voilà. Alors après,
et d'absence totale de jugement, mais de volonté de compréhension.
Oui, mais en tant qu'écrivain, je précise pas en tant que journaliste, par exemple, ou Edoui Plenel et d'autres font ce boulot d'enquêter. Moi, en tant qu'écrivain, je suis pas enquêteur, mais en même temps, il fallait que j'aille voir. Donc, mon premier sentiment, c'était que faire, et le deuxième mouvement, c'était allons voir. Et j'habite Paris, je suis allé sur les Champs-Élysées, j'ai vu, et il se trouve que ce que j'ai vu m'a pas totalement convaincu sur les Champs-Élysées, j'ai envie de dire. En revanche, deux jours plus tard, il se trouve que je fais un rêve qui amalgame un certain nombre des éléments de ce que j'avais vécu sur les Champs-Élysées. Et là, le geste littéraire a pu exister, c'est-à-dire que je peux raconter ce rêve, évidemment en le travaillant de façon littéraire pour en faire un récit. Et parce que moi, il me semble que la Révolution française, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, fonctionne aussi bien avec Rousseau et le contrat social qu'avec Candide de Voltaire. C'est-à-dire qu'il y a besoin de récits. Il y a besoin d'imaginaire, il y a besoin de désir, il y a besoin de récits. Et de récits qui contestent, qui ne déconstruisent pas seulement le récit officiel, ce que font les journalistes et Plenel en particulier, mais aussi opposent à ce récit un autre récit. Donc, c'était, et puis il y a aussi autre chose qui est de parler une autre langue. Vous avez lu le début, c'est tout de suite placer les choses dans un rapport au langage qui n'est pas la langue contemporaine. À partir du moment où on est tous, malgré nous, capables de dire « profite bien de tes vacances, je gère mes trucs, etc. », on parle déjà la langue de l'économie, donc on parle déjà la langue de l'ennemi, donc déjà on est baisé. Donc écrire, c'est pas juste déconstruire le récit officiel, c'est aussi lui opposer une autre langue et un autre récit. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je me suis bien marié.
Alors, on a l'impression, en tant que lecteur, Grégoire Bouillet, que vous êtes beaucoup impliqué corporellement, psychiquement. On parlait de poésie avec Edoui, poétiquement aussi. Et qu'au départ, quand vous vous retrouvez corporellement au milieu de ces manifestations, ce que vous ressentez, et ça m'a beaucoup frappé, c'est un sentiment de solitude.
Sur les Champs-Élysées. Absolument.
Parce que le même jour, il n'y avait pas que les Champs-Élysées.
Bien sûr.
Et justement,
bien
le 8 sûr. Décembre est une date très importante parce que c'est le jour aussi de la première marche pour le climat.
Oui.
Le pouvoir avait essayé d'empêcher, de dire aux écologistes, n'allez pas vous mêler, ne manifeste pas. Ils ne manifestent pas. Et moi, j'étais pas aux Champs-Élysées, mais j'étais à la République. Et là, j'ai vu la convergence a commencé là. Dans un moment de beauté du rassemblement final, et c'est là qu'il y a eu déjà fin du mois, fin du monde, même combat. Mais pour revenir à votre travail, il y a une trouvaille qui est dès le titre et qui renverse. Ça, c'est vraiment, c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, cette façon, cette gouaille dans la langue et dans la déconstruction de la langue. C'est ce titre, Charlot déprime, qui est l'anagramme de l'Arc de Triomphe. Et justement, voilà, on met un autre agenda, on met d'autres mots, on met un autre récit, on met un autre imaginaire. Il y a un côté Gavroche dans tout ça.
Oui. Vous-même, dans votre bouquin, vous parlez dans Nuit debout, comment ils se sont inventés une autre temporalité.
Oui.
Et moi, c'était quelque chose auquel j'avais pensé dans un de mes précédents livres, mais il y a des années, bien avant Nuit debout. Et ça m'avait plu que, on est le 32 juin, le 35 juin, et inventons une nouvelle temporalité. Oui.
On sort de l'horloge et on invente le temps mécanique de l'exploitation, de l'usine, et on invente un nouveau calendrier, un nouveau rythme, etc.
L'un des autres avantages du récit, par exemple dans le rêve, c'est quelque chose que seule la fiction peut faire, c'est que lorsque j'invente l'homme au masque de toucan dans cette grande fête vénitienne, partouze et compagnie, où je me situe, en tous les cas la fiction se situe du point de vue de l'ivresse du pouvoir, de ce qui détermine nos existences, en tous les cas collectives, si ce n'est moins individuelles en tous les cas, je pense qu'il y a effectivement des gens, tout en sommet de la pyramide, qui s'amusent et qui ont des propos aussi cyniques, aussi monstrueux. Sauf que jamais un journaliste ne pourra le dire, parce que ces gens-là ne pourront le dire, si jamais ils arrivent à le penser, que dans l'entre-soi.
Sauf quand nous avons des audios comme dans l'affaire Bettencourt ou récemment dans l'affaire Benalla. On les entend.
Oui, oui, mais
on entend leur grossièreté même.
Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, c'est vraiment cette façon de considérer, que cette histoire des Gilets jaunes pourrait, et c'est de l'ordre de la fiction, mais est une occasion pour eux aussi.
Alors, vous savez sans doute, et vous avez peut-être vu leur film, que le film de François Ruffin et Gilles Perret est sorti la semaine dernière. Il s'intitule « Je veux du soleil ». Il parle des Gilets jaunes. Vous parliez de l'inventivité des Gilets jaunes. Vous disiez, Grégoire Bouillet, que vous étiez en train d'inventer un récit entre l'onirisme et la fiction, une sorte d'insurrection poétique à partir de ce qui se passe grâce aux Gilets jaunes. Écoutez aussi des témoignages à l'intérieur de ce film, comment les ronds-points peuvent servir non seulement, ça on l'a compris depuis le début, de lieu de sociabilité et d'échange et de partage, mais aussi des lieux de recherche, de travail. Écoutez l'exemple de ce film « Je veux du soleil ».
J'ai peut-être trouvé une piste d'emploi à force de venir sur les rassemblements Gilets jaunes. Ouais, ça fait très longtemps que je trouve que ça se passe pas correctement, qu'on n'est pas représenté, mais ils auront faire tout leur discours, tout leur beau discours. On n'a peut-être pas fait des études, mais on comprend quand ils veulent nous berner. Moi, quand j'ai commencé à travailler en 2004, je m'en sortais bien mieux que maintenant. Petit à petit, je me suis retrouvé à faire des missions intérim, de plus en plus rarement, parce qu'il y en avait de moins en moins. Et petit à petit, j'ai vu mon niveau de vie baisser. J'en suis même arrivé à... Maintenant, j'ai même plus d'appartement, je vis sur un terrain dans une caravane. Et puis mission intérim, après mission intérim, et la descente petit à petit, la descente aux enfers, quoi.
Et là, tu dis que t'as presque trouvé du boulot avec...
Ouais, en fait, j'ai rencontré donc un artisan qui a une entreprise de couverture. Donc je l'ai rencontré en fabriquant... ce magnifique château.
Le chalet des Gaulois.
Ouais, ouais. J'invite tout le monde à venir sur les points de rassemblement. Ça marche beaucoup mieux que le Pôle emploi ou que les sites. Hein.
Alors ça, c'est l'extrait du film « Je veux du soleil » qui est partout sur les écrans en France aujourd'hui. Ce week-end a vu une sorte... en tout cas, c'est ainsi que certains journaux ont parlé des manifestations des Gilets jaunes, une sorte de décélération du mouvement à l'intérieur des manifestations des grandes villes de France, mais en même temps, il y a eu, vous parliez d'un premier rassemblement,
le deuxième
a eu lieu à Saint-Nazaire, où manifestement des ateliers politiques sont en train d'élaborer une sorte de pratique collective politique.
Avec un appel qui est public à tous les Gilets jaunes.
Comment voyez-vous tous les deux l'avenir des Gilets jaunes, Grégoire Bouillet?
Je ne sais pas, ça lui appartient, ce mouvement. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a évidemment un premier sentiment qui est l'injustice de cette société. Mais mon récit se situe plutôt sur le fait que ce n'est pas seulement injuste, c'est injustifié. Et donc, je pense que quelle que soit l'issue de ce mouvement, qu'il périclite, qu'il soit récupéré, que ça se transforme en simples élections, je pense que c'est plutôt le début de quelque chose, après un long cycle de dépolitisation, mais dans nos vies privées même, enfin où c'était devenu complètement impossible de parler juste politique, pas parler politicien, mais parler politique, j'ai l'impression que là, après 30-35 ans de non-politisation, j'ai l'impression qu'on va revenir sur un cycle politique, et je trouve que ce mouvement marque peut-être le début de quelque chose.
Edoui ?
Oui, je ne dirais pas mieux, on ne peut pas prédire l'avenir, hein, et autrement, on ne sentirait pas l'inattendu, l'imprévu, mais je pense que la dynamique est celle-là. La dynamique, c'est vraiment une reconquête de ce qui nous appartient, et vraiment y compris la critique de la représentation, qui est très forte, hein, ça renvoie à ce qu'on voit dans les urnes, hein, et qu'on va voir encore, qui est la montée de l'abstention, du vote blanc. Mais vous avez l'expression derrière. Ça ne veut pas dire une dépolitisation, justement. Et c'est ça la bonne nouvelle des Gilets jaunes. Et c'est ça que, je dirais, ceux qui ont accompagné, vous parliez de la décrépitude des gauches, mais qui se sentent néanmoins propriétaires de la gauche, etc., n'ont pas vu. Hein, ils sont restés sur le bord. Alors que c'est ça qui nous a fait ce que nous sommes. Et c'est ça qui peut être la seule chance de renaissance, la vraie renaissance. Pas le mot vide de sens d'une campagne européenne, mais le mot d'une renaissance de l'espérance. Je voudrais vraiment insister sur le livre de Grégoire, parce que c'est au cœur, y compris vous m'avez moqué tout à l'heure sur le romantisme, sur tout ça, mais on ne peut pas retrouver des solutions sans sensibilité, sans émotion, sans bienveillance, sans empathie. Hein, ça ne peut plus être les slogans froids, autoritaires, verticaux. Et là, vous l'avez, il y a un grand bonheur dans les relations entre les gens.
Ben, merci à tous deux. Merci à Grégoire Bouillet. Votre livre s'intitule « Charlot déprime, suivi d'un rêve de Charlot ». Il vient d'être publié aux éditions Librio. Et vous, Edoui, c'est aux éditions de La Découverte. Edoui Plenel, La victoire des vaincus à propos des Gilets jaunes. Et on va terminer, avant d'entendre mieux sec les gens, par une citation de vous, Grégoire, à la fin de votre livre. Je vous lis, n'importe quel gilet jaune devrait inscrire dans son dos « I am not your pauvre », au sens où James Baldwin écrit qu'il n'est pas un noir, il est un homme, et il sera détruit le jour où il croira être ce que les blancs appellent un noir. Point, fermé la citation de James Baldwin. Quiconque n'est pas un gilet jaune devrait comprendre ce que cela signifie. Merci à vous deux, à vous monsieur Sec. Merci à Stéphane Beaujac qui était à la technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux, à Anne-Sophie Dazard, Élodie Royer et Pierre Dindy qui ont préparé cette émission et à Claire Destacan qui l'a réalisée. Et après le prochain journal, eh bien, nous recommençons une semaine avec l'ami Mishka Sayas pour son Very Good Trip.